Merci, Sonia. Bien, je suis venue équipée. Mes yeux et ma mémoire. Vous allez voir que j'en ai besoin parce que l'histoire va peut-être vous le raconter. J'ai besoin d'aide pour me rappeler de certaines choses. J'étais contente quand Sonia m'a demandé de venir vous parler. Mais après que j'ai accepté, je me suis dit, ouf, qu'est-ce que je vais dire? Parce que, à la fois, il y a beaucoup de choses à dire et peu de choses à dire. Je ne suis pas une experte de la souffrance, je n'ai pas les réponses, mais je peux cheminer à vos côtés parce que je crois que chacun a leur lot de souffrance, des périodes très intenses, parfois des périodes qui sont peut-être moins intenses, mais tout le monde y goûte un jour ou l'autre. Alors, il y a 25 ans, moi, j'ai frappé un mur de plein fouet. Mais j'étais pas en auto, c'était pas un accident d'auto, c'était un accident de la vie où j'ai attrapé, paraît-il, un virus qui, en dedans de quelques secondes, a atteint mon cerveau. Et là, je vais brailler. Pas une belle histoire pour moi. J'avais 36 ans et j'étais en santé. J'étais en vacances. Pas supposé d'arriver ces choses-là. Mais d'une seconde à l'autre, je sentais la mort s'emparer de chaque cellule de mon corps. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Beaucoup plus tard, des années plus tard, un spécialiste m'a dit, « Oh, j'ai entendu ça déjà de d'autres personnes qui sont passées par là. C'est bizarre. » Mais je n'étais pas mourante. J'étais très mal, mais j'ai réussi. J'étais en vacances en Ontario. J'ai réussi à revenir au Québec avec mon mari et ma petite fille qui avait 7-8 ans. Je suis retournée au travail, je travaillais à l'hôpital Saint-Augustin de Courville. J'étais ergothérapeute. Mais très rapidement, je me suis rendue compte, en dedans d'une journée ou deux, que j'avais de sérieux problèmes. Je ne me rappelais pas de rien. Et on avait eu un cours juste avant mes vacances de formation continue. On avait dit que le cas le plus jeune d'Alzheimer au Canada avait 38 ans. Alors, je me suis dit, ça y est, j'ai 37, je suis le cas le plus jeune au Canada. Et comme on nous avait dit dans le cours de formation, les gens le cachent au début, et c'était vrai. J'ai pas parlé à personne. J'ai pas parlé à ma patronne. J'ai pas parlé à mes consoeurs de travail. J'ai même pas parlé à mon mari. Mais après peu de temps, je me rappelle, je suis rentrée du travail, puis il m'a dit, « Es-tu en train de retapisser les murs? » J'ai dit, « Non. Qu'est-ce que tu veux dire? » Puis là, il m'a montré la porte d'entrée chez nous. J'avais collé des mémos partout. Je me rappelle pas combien, mais plusieurs. Et là, j'ai dû lui avouer, j'ai un problème. Je me rappelle de rien. Et ça a été de mal en pire parce qu'après quelques semaines, j'ai dû me rendre compte que j'étais incapable de travailler. J'ai dû rentrer à la maison. Au début, j'avais une assurance salaire. Mais après un certain temps, le médecin m'a dit, on a fait beaucoup, beaucoup de tests, on n'a pas repéré le problème, on n'a pas compris. Et j'ai dû laisser mon emploi, donc j'ai perdu mes revenus, ça a été tout un choc pour le couple. Et moi, j'étais suffisamment malade que je peux vous dire que je n'avais pas vraiment la capacité de beaucoup raisonner, là. Dans peu de temps, je passais jusqu'à 16 à 20 heures par jour au lit, presque dans le coma. Et je fonctionnais très peu. Les quelques heures que j'étais debout, j'ai réussi à trouver des trucs. Allumer une lumière là, laisser une porte ouverte là, des mémos en couleur écrites comme ça, là, partout, pour me rappeler simplement que j'avais ouvert un rond sur le feu ou que j'avais commencé à repasser dans une autre chambre ou que j'avais commencé à faire des lavages. Et aussitôt que le téléphone sonnait et que je quittais la pièce, je ne savais plus du tout ce que j'étais en train de faire. C'était pas facile, c'était terrifiant. Quand on frappe un mur de maladie, on se dit, j'irai voir le médecin va me dire c'est quoi, va me donner une pilule, je vais rentrer à la maison, puis bon. Mais ça n'a pas été comme ça. J'étais loin de penser au début que 25 ans plus tard, parce que c'était en 1985, que je serais encore en train de lutter avec les séquelles de cette expérience. Alors, c'était pas supposé de se passer comme ça, parce que dans ma tête, j'avais une belle théologie très approfondie sur la souffrance. Il n'y en aurait pas. J'avais décidé ça comme jeune chrétienne. J'avais eu une enfance difficile. J'avais été très malheureuse chez nous. J'avais été, je dirais, probablement en dépression vers la vingtaine. Mais j'avais pas accès à personne pour m'aider, donc j'ai jamais eu de diagnostic. Et alors là, le Seigneur est venu me chercher. J'étais en train de faire mes études universitaires et les groupes bibliques universitaires ont fait une campagne d'évangélisation. J'ai commencé un cheminement vers le Seigneur. Peu de temps après, j'ai rencontré mon futur mari, Rock, qui est ici avec moi ce soir. Et il me semblait que, ouf, correct, là, la vie commence à être belle, là, c'est derrière moi, la souffrance est finie. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais dans les années 70, je n'ai pas tout à fait reçu le bon message biblique, parce que je pense, je le déformais, parce que je voulais le déformer. Je me suis dit, j'ai eu beaucoup de souffrance et de tristesse et de difficultés familiales jusque-là, mais maintenant, c'est le bonheur. Jésus m'apporte le bonheur. Je suis sauvée, je suis délivrée, ça devrait bien aller. Alors, comme vous pouvez constater, je n'étais pas énormément réaliste. Je me suis quand même mariée en 72 avec Rock. On s'est fait baptiser à l'église baptiste de Limoilou au printemps et on s'est mariés à l'été. Et, bon, j'ai dû commencer ma quête pour ce bonheur que je prenais pour acquis. Bon, je suis sauvée, il est là. Mais, bon, le travail était souvent stressant. La communication, pas toujours là dans le couple, c'était pas facile des fois. En plus, vous avez sûrement pas vécu ça, mais il y avait des tensions dans l'église. Et puis moi, j'étais jeune chrétienne, super idéaliste. Il n'y a aucune de ces choses-là qui devait se passer. C'était pas ça l'histoire. C'était pas pour ça que je m'étais engagée pour le Seigneur. Je pense que le comble du malheur pour moi, à ce moment-là dans ma vie, c'était le divorce de nos plus proches amis, des amis chrétiens. Et là, j'étais comme sidérée. Puis je pense que ma réaction à ce moment-là, c'était de m'activer de plus en plus. Je travaillais à l'extérieur, j'avais une petite fille à la maison. Là, je pense que j'ai goûté sur une période de plusieurs années à tous les ministères dans l'Église. Et puis, j'étais vraiment une bonne femme chrétienne. Et puis, je travaillais fort à mon travail. Je voulais travailler pour le Seigneur. Et puis, à quelque part, je pense que je croyais que cela allait générer ce bonheur parfait, parce que c'était supposé d'être parfait. Le Seigneur avait d'autres idées pour moi parce que il m'aimait, il m'a accueilli, mais il voyait bien que je n'avais pas la maturité qu'il fallait pour faire face à la vie, parce que la vie est pleine de difficultés. On en a tous les jours. Alors, voilà que ma situation a continué. Épuisement absolument incroyable, perte de mémoire, incapacité de fonctionner, incapacité de l'expliquer à qui que ce soit. Je n'avais pas de diagnostic. Beaucoup de difficultés pour mon mari. Je ne sais pas comment il a fait pour supporter ça, là. Aucune explication, je ne sais pas s'il pensait que je faisais semblant, mais il était impuissant, il ne pouvait rien faire. Mes revenus ne rentraient plus. Bon, c'était une période très difficile, ça a pris 9 ans avant que j'aie un diagnostic. C'est long, je veux vous dire, c'est pas évident. C'est presque le désespoir par bout. Et je n'avais que le Seigneur, je ne pouvais que m'accrocher à lui, il n'y avait rien d'autre. Et comme vous le savez, dans l'épreuve, le Seigneur ne nous donne pas toujours tout le pourquoi. On s'accroche parce qu'on... Où est-ce qu'on pourrait aller à part ça? On n'a vraiment aucune autre destination. Quand même qu'on voudrait en trouver une, il n'y en a pas. Et quand j'ai eu le diagnostic, c'est quelqu'un qui m'a envoyé à sa place, à sacrifier son rendez-vous avec un spécialiste à Montréal. Il fallait attendre des années pour avoir accès à lui. Et il m'a annoncé que j'avais une condition qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique. Ça expliquait l'épuisement. Mais c'était dû à cette infection dans mon cerveau. Et ça a déclenché un paquet de problèmes avec mon système endocrinien, mon système immunitaire et toutes les fonctions, finalement, du cerveau. Tout fonctionnait de travers. C'était un choc et en même temps un soulagement. Au moins, j'avais une idée de ce que j'avais. Mais c'était des années extrêmement noir dans ma vie. Et j'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'une affaire de même, ça peut être à la gloire de Dieu. Moi, j'aimais le Seigneur tout mon cœur. Je donnais mon maximum tout le temps. Il me semble que j'avais rien fait de travers. Tu sais, je me l'expliquais pas. Et j'avais pas non plus vraiment l'énergie pour chercher une explication. Une chose qui m'a aidée pendant les premières années, parce que là, ça fait 25 ans, c'est que je réussissais à trouver des petits, petits mini-ministères dans l'Église. J'étais tellement contente de faire partie de l'Église, parce que où dans la société est-ce qu'on peut trouver une implication qui ne dure qu'une heure de temps à autre? J'ai trouvé plein de petits ministères sur plusieurs années. J'avais un besoin fou de me sentir utile. Quand tu es une jeune femme, tu étais en pleine santé, tu étais une professionnelle, puis tu avais plein d'activités, puis tu tombes à zéro comme ça, là, je vais brailler encore. C'est un choc. Et le fait de pouvoir m'impliquer dans l'Église était une grâce. Ça m'a vraiment, vraiment aidée. Et c'est peut-être, à quelque part, ce n'était plus la performance que c'était quand j'étais en santé, c'est sûr, mais à quelque part, c'était une valorisation. Parce qu'on a besoin de ça. Ce qu'on fait, nos activités nous valorisent, nous définissent. Et moi, bon, j'en avais beaucoup moins qu'avant, mais au moins, j'étais capable de servir le Seigneur. Et c'était important pour moi. Et une des choses que j'ai vécues, et Sonia m'en a fait mention quand elle m'a demandé de venir ce soir, brièvement en tout cas, c'est ce phénomène de vivre un problème qui ne s'en va pas. C'est chronique, bon, ben, c'est un mot presque cliché, mais un problème qui est là pour la durée, et de le vivre avec ou sans le contexte d'une église. L'être humain, il ne sait pas quoi faire avec quelqu'un qui a un problème qui ne s'en va pas. Dernièrement, je me suis fracturé l'épaule, j'ai eu 4 bouquets de fleurs, j'ai eu 3-4 visites, j'ai eu des téléphones, tout ça, mais je peux vous dire, dans les 25 ans de l'autre maladie, à peu près zéro. Je vous partage ça, c'est pas pour me plaindre, mais pour vous dire que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, que beaucoup de personnes qui ont un problème qui est pas ponctuel, là, que c'est pas quelque chose qui va se régler le mois prochain, c'est pas une chirurgie, j'en ai eu plusieurs, dont on va guérir dans un couple de mois, là. Mais c'est un problème qui s'en va pas. Les gens deviennent un peu là d'offrir le soutien. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut négliger quelqu'un. Et bien, je vais juste vous encourager parce que quelqu'un qui a un problème, qui est là jusqu'à ce que le Seigneur vienne les chercher, a un combat à tous les jours pour garder le moral. Un combat à tous les jours pour garder confiance en Dieu. Et c'est pas une petite affaire. Puis j'aimerais dire que la pensée m'est venue. En tout cas, dans mon cas, la maladie est invisible. Vous me regardez, vous n'allez pas voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête en me regardant. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des handicaps ou des maladies qui sont davantage visibles, mais parce qu'ils sont renfermés dans la maison chez eux, on ne les voit pas, on oublie. Les gens mènent des vies très trépidantes, on va vite, on est stressé, on a plein de responsabilités, puis on a aussi plein de loisirs qu'on aime. Et j'ai constaté que beaucoup de gens comme moi en tombent dans l'oubli. Peut-être des fois aussi, Sonia, on en parlait, parfois les gens peuvent être intimidés aussi par la souffrance. Ils disent, ah, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, je sais pas comment l'expliquer, puis je sais surtout pas comment l'arranger. Mais je vais vous dire que la personne malade ne cherche pas à ce que vous ayez la solution, ne cherche pas l'explication, ne cherche pas rien de ces choses-là. Cette personne-là, elle cherche l'écoute active, de vraiment l'écouter avec vos cœurs, puis pas tout de suite plaquer un verset biblique ou malheureusement, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont fait pire que ça avec moi, qui m'ont dit, ben ça fait X années, tu l'as pas encore accepté. Mais c'est à chaque jour quand on se lève, qu'on prend notre cœur brisé, puis on reconstruit la journée selon les petites énergies qu'on a. Là, c'est quotidien, ça. Toutes sortes de commentaires qui ont été blessants. Il y a quelqu'un qui est une femme chrétienne qui m'a écrit une très belle petite lettre dans laquelle elle me disait que c'était de ma faute parce que je manquais de foi. Et si j'avais eu la foi, je n'aurais pas vécu cette épreuve. Mais vous pouvez imaginer, ça aide pas la personne. Ça nous aide pas à avoir confiance. Si tu m'enlèves Dieu, parce qu'à quelque part, ça doit être de ma faute dans ma relation avec le Seigneur, ben là, tu m'as enlevé tout ce que j'ai. Parce que Dieu sait tout ce que j'avais. Alors, je vous encourage à y penser. Comment on peut, sans le vouloir, on peut blesser quelqu'un qui est déjà abattu, déjà écrasé par le cheminement de vie. Il faut vraiment y penser, puis juste quelques petites suggestions que je peux vous donner, parce que je suis sûre que vous connaissez des gens un peu comme moi qui vivent des choses difficiles. Un petit téléphone, un petit appel très court. Moi, je deviens fatiguée au téléphone. Pas envie de parler des heures, moi, là. Des fois, ça m'arrive, mais ça m'épuise. Un petit appel, une petite visite, un petit cadeau, un petit mot qu'on écrit. Mais surtout, ne pas oublier que quelqu'un qui vit une dynamique comme ça pour la vie, le besoin continue dans le temps. Le besoin de soutien continue. Le besoin de prière. Puis des fois, on dit à quelqu'un, « Oh, ben je vais prier pour toi. » Mais moi, je me dis, « Je vais prier avec toi. » Tout de suite, là, au téléphone, ou avec toi. C'est incroyable, le soutien que ça donne. Il y a un homme dans mon assemblée, quand ça faisait 8 ans que j'étais malade, il m'a dit, « Oh, ben Carole, il dit, je prie plus pour toi. » J'ai dit, « Comment ça se fait? » Là, il dit, « Ça fait 8 ans que je prie, t'es pas guérie. » Ouf! J'ai dit, mais tu t'es pas rendu compte qu'en priant pour moi, tu me supportais comme ça? Puis ça m'aidait à traverser mes journées, à pas succomber au désespoir. Oh non, il dit, j'avais pas pensé à ça, je voyais que tu guérissais pas, puis je trouvais que c'était inutile. Mais la prière est jamais inutile. Et d'ailleurs, je connais une missionnaire qui disait que quand elle était en Afrique, pour des périodes de 4 ans chaque fois, elle disait qu'elle sentait physiquement quand les gens priaient pour elle, elle sentait le soutien. Et a dit, je le sentais physiquement quand il ne le faisait pas. Ça peut avoir l'air un peu flayé, mais je portais à la croire. Et puis, donc, je vous encourage dans ce sens-là. Où est-ce que je me trouve aujourd'hui? Bien, j'ai à peu près 50% du fonctionnement normal d'un adulte de mon âge. C'est pas fort, mais c'est beaucoup mieux que les premières années. Je ne passe plus 16 à 20 heures par jour au lit, sauf si je suis en poussée de maladie. Mais le dérèglement de tous les systèmes de mon corps a amené d'autres problèmes. Je suis devenue allergique, pas universelle, mais allergique à un très grand nombre d'aliments, de médications. Je deviens très malade quand je suis exposée à la fumée. N'importe quel produit chimique, j'ai eu des chirurgies, chaque fois je devenais allergique à tout ce qu'on me donnait, fait que là je suis rendue qu'il faudrait que vous priez que j'ai jamais plus besoin de chirurgie, je suis pas capable de supporter ce qu'ils doivent me donner pour m'endormir et tout le reste. Alors ça c'est très éprouvant, c'est très très éprouvant, là, le dérèglement augmente avec les années, et puis bon, j'ai développé quelque chose qui fait super plaisir à mon mari, j'ai une hypersensibilité au bruit. Ah, la tête veut me sauter, fait que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est hypersensible comme ça. Puis je suis hypersensible dans l'auto aussi, tout ce qui me fait faire le saut. Tout le cerveau, j'ai le cerveau brûlé, on peut dire, là, fait que tout réagit. Je crie et mon mari lève sur son siège. Ah, faut vraiment plaindre les gens qui accompagnent les personnes. On oublie de le faire d'ailleurs, je dis ça en riant, mais c'est vrai aussi que celui ou celle qui accompagne, comme la madame qui pleurait ce soir parce qu'elle voudrait bien accompagner quelqu'un qui souffre, c'est très dur à accompagner. On n'a peut-être pas les symptômes, mais on a tout le, on dirait en anglais, tout le fallout, toutes les retombées. Notre vie est transformée autant que la vie de la personne malade, et parfois plus dans un sens. Alors, faut pas que j'oublie de prier pour mon mari. Une autre chose qui était difficile pour moi, qui demeure difficile pour moi, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est invisible ce que je vis. Alors les gens ont tendance à oublier, à négliger de prendre mes nouvelles, à penser que tout est rentré en l'ordre. Fait que moi, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, c'est toujours bien de poser une question, comment vas-tu, mais vraiment, vraiment avec l'idée d'écouter, parce que les gens me posent la question à l'église, mais il y a très peu qui écoutent ce que je dis. J'ai la moitié de ma première phrase, puis la personne a déjà tourné vers quelqu'un d'autre pour... Alors, faut faire attention, ça c'est blessant, quand quelqu'un fait semblant de s'intéresser, mais ne s'intéresse pas vraiment. Et c'est sûr qu'il y a un prix à payer. L'écoute active, le vraiment écouter, puis dire vraiment, je vais prier avec toi, puis je vais prier pour toi, puis même dimanche prochain, je vais te demander encore comment tu vas. Il y a un prix à payer pour accompagner la personne qui souffre. Une autre souffrance qui est venue s'ajouter à celle que je cumulais depuis longtemps, c'est la souffrance de perdre mes ministères dans l'Église. Parce que avec les années, depuis 2-3 ans, même un peu plus, peut-être depuis 4 ans, j'ai dû délaisser tout ce que je faisais, une chose après l'autre, ça m'a brisé le cœur chaque fois. Ce qui n'a pas aidé, c'est qu'il y a une femme de mon église qui m'a appelée pour me reprendre durement là-dessus que j'étais irresponsable de laisser mes ministères. Je braillais à l'autre bout du fil, mais elle ne comprenait pas. Elle pensait que je faisais exprès, que j'étais irresponsable. Et j'ai dû lui dire, ça me brise le cœur. J'en pleure, parce que pour moi, c'était ma joie. Ce n'est pas une joie de ne pas pouvoir servir le Seigneur. Mais... c'est sûr que Sonia me le dit souvent, et c'est vrai aussi, Sonia. On sert de toutes sortes de façons. Et le chemin que Dieu ouvre devant nous n'est pas celui qu'on aurait choisi. Et quand on dit, ce matin à l'église, le pasteur citait le passage, je pense que c'est dans l'Éphésiens, mais je ne me rappelle pas, là. J'ai des troubles de mémoire toujours. Ça parle que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous. Puis souvent, moi, dans le désordre de mes journées, avec une limite au niveau de l'épuisement, qui, tu sais, des fois, je suis capable de faire une journée de 4 heures d'activité légère, des fois, c'est 2 heures, des fois, c'est une demi-heure, des fois, c'est 6 heures, je sais jamais qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Là, j'ai perdu le fil de ma pensée, et ça aussi, ça arrive avec le problème que j'ai. Bon, c'est pas grave. On va passer à d'autres choses. J'ai mis ici un titre, la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit soi-même à propos de Dieu quand la souffrance fait partie de notre quotidien? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Je ne sais pas pour vous, moi je passe par des périodes de rébellion, des périodes de désespoir, des périodes de tristesse, des périodes de dépression, des périodes où je suis, c'est le calme plat, des périodes où j'ai confiance à 100 000 à l'heure, mais c'est pas tout le temps pareil. Hein? La vie est comme ça pour nous tous aussi. Et puis, venu s'ajouter à ma souffrance, c'est la souffrance de plusieurs qui sont près de moi. Mon mari a un problème de santé qui... ne se résout pas, même avec l'aide des médecins, ma fille aussi, ma mère, deux de mes sœurs, plusieurs amis proches. Et parfois, je disais à Sonia, j'ai un lot de tristesse, c'est lourd. Et elle me reflétait que c'est un peu normal d'être triste quand les choses tristes se passent, là. Jésus a pleuré. Il a pleuré sur Lazare, sachant qu'il allait le ressusciter. Il comprend nos tristesses. C'est pas tout le monde qui comprend ça, parce que moi, je me suis fait reprendre durement par certains membres de mon Église sur les 25 ans, quand ils m'ont trouvé à pleurer le dimanche matin. J'ai pleuré sur 25 ans à peu près 4 fois dans mon Église. J'ai pas exagéré, mais j'ai reçu des appels me disant que c'était déplacé, c'est une hypersensibilité qui déshonorait le Seigneur, et que je devais vraiment m'organiser pour changer ça. Et là, moi, je pensais au verset qui disait, on est appelé à pleurer avec ceux qui pleurent. Mais si on ne permet pas les larmes, j'ai apprécié vos larmes ce soir, madame, parce qu'elles étaient appropriées. Quand on a de la peine, hein, c'est... Alors, Dieu s'en sert, parce que ça m'a touchée. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand la souffrance qu'on trouvait déjà de trop, là, augmente? Et comme j'ai dit à Sonia, je passais une période très noire juste avant de tomber en février et me casser l'épaule, puis pas à peu près, je me suis pas manquée. Mon mari m'a dit, il fait beau, là, on va sortir prendre l'air, puis il m'a amenée dans le camping de Beauport, puis on était en ski, mais juste pour faire un peu de marche, puis j'ai manqué un petit tournant, puis flingue, puis ben, fini. On y goûte depuis ce temps-là. Mais là, j'avais quasiment le goût de rire parce que jusque-là, je n'en pouvais plus. ça se peut pas. Il y a une autre affaire par-dessus les autres choses. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les épreuves se multiplient? Je dis pas que j'ai la réponse, mais je peux vous dire que chaque matin, je priais puis je demandais à Dieu, par son Saint-Esprit, de me diriger dans sa parole parce que j'ai vraiment besoin que tu me parles. Puis, des fois, je trouvais, chaque matin, il me parlait, il me montrait quelque chose dans sa parole. Puis, chaque matin, je me disais, ben, c'est tellement bon, là, ça devrait être bon pour une semaine, hein? Même parole, jamais. Le lendemain matin, j'avais un autre besoin, puis j'ai dit, Seigneur, bien, tu me fais penser déjà à d'autres choses. Mais il m'a parlé, puis une des choses qui m'a beaucoup touchée, dans le mois avant ma fracture, où je luttais vraiment avec beaucoup, beaucoup de difficultés et de peines, j'ai découvert dans les Écritures qu'il y a au moins un psaume, je pense qu'il y a plus qu'un, mais en tout cas au moins un, le psaume 88, où le psalmiste se sentait comme moi. Puis là, j'ai dit, Seigneur, ça me fait du bien, parce que c'est biblique. J'ai le droit de me sentir comme ça. Le psalmiste, il se sentait comme ça. Et dans le psaume 88, il dit, que ma prière parvienne en ta présence, tends ton oreille à mon cri, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie touche au séjour des morts. Et ça continue dans la même lignée. C'est drôle, hein? Quand j'étais jeune chrétienne, je sautais de façon sélective tous les passages qui parlaient de souffrance parce que moi, le christianisme était supposé de m'apporter le bonheur pur et simple. Et c'était inconscient, je pense, mais j'avais une façon très sélective de lire la Bible. Mais maintenant, je suis réconfortée par tous les versets et les passages qui parlent de souffrance parce que ça me dit, c'est normal, ça fait partie de la vie et Dieu me parle à travers ça. Il me montre que la parole de Dieu est un livre qui parle de la réalité que je n'ai pas toujours voulu voir. C'était plus intéressant d'être une autruche, puis de faire semblant que, bon, non, s'il y a des choses, des malheurs qui arrivent aux autres, et c'est sûr qu'ils ne m'arriveront pas à moi, Dieu ne m'a pas laissé là, il m'a récupéré. Ce n'était pas pour m'aider, essayer de traverser la vie comme ça. Et puis maintenant, souvent, depuis quelques années, je médite sur les paroles d'Ésaïe 53 qu'on connaît si bien. particulièrement là où ça dit mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, c'est le verset 3 dans Ésaïe 53. Et ça m'a ramené souvent à penser, quand à l'Église on chante le petit cœur, « Te ressembler, Seigneur, c'est mon désir suprême, penser, agir, aimer toujours plus comme toi. » Juste a commencé à me parler parce que je me suis dit, il était un homme de douleur. Puis moi, je pense que, jeune chrétienne, ce que je voulais, c'était ressembler à Christ dans la joie, dans le bonheur, dans sa gloire, finalement. Parce que sur la terre, il a beaucoup souffert. Et je suis encore sur la terre, puis je voudrais que ça soit différent pour moi. Et c'est ma prière depuis quelques années de ne plus chanter ce petit cœur-là du bout des lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire de ressembler à Christ? C'est d'accepter bien des choses qu'on ne voudrait pas accepter, je croirais. Je loue Dieu parce qu'il m'a nourri par sa parole, même dans les moments très noirs. Je le loue de tout cœur pour Sonia, qui depuis quelques années m'accompagne dans des choses que je n'arrivais pas à résoudre. J'avais besoin de l'amour de Dieu à travers son ministère pour pouvoir jeter de la lumière là où je n'étais pas capable. C'est comme mon bras qui est cassé. Je n'ai plus besoin de la telle, sauf dans l'auto, mais il ne marche plus. Alors maintenant, je dois aller chez le physio qui, elle, est capable de le lever, même si ça fait mal. Et des fois, quand je suis avec Sonia, ça fait mal. Parce qu'on va chercher des choses qui sont sclérosées puis que j'aimerais mieux pas toucher. Mais je suis très reconnaissante à Sonia, puis surtout au Seigneur qui a ouvert son cœur envers moi pour me recevoir dans une situation où je n'avais plus l'espoir d'être entendue. Je l'avais vraiment plus. Alors, parfois, je pense aussi que je suis un petit peu comme le fils prodigue. J'ai pas quitté l'Église. Il y a des gens, on a parlé, Sonia et moi, dernièrement, que bon, on a des choix. Quand on souffre beaucoup, puis la souffrance n'en va pas, puis on est bouleversé, rebelle, résistant à ça, confus, on peut tourner le dos à Dieu. C'est sûr, puis moi, j'ai connu des chrétiens qui ont fait ça, et malheureusement, les résultats n'ont pas été glorieux. Mais, comme Sonia m'a souligné, je me trouverais à me tourner le dos à la seule personne qui peut m'aider. Et comme Job, Dieu n'a pas choisi de m'expliquer pourquoi. Ça, peut-être que je le saurai un jour, peut-être pas. Mais moi, je suis le fils aîné qui est resté dans l'Église, mais qui ne comprenait pas tellement son Père céleste. C'est ces gestes d'amour envers moi, là, je les mettais en question un peu. Si c'est ça l'amour, j'en veux pas, là, des fois. Mais je rends gloire à Dieu pour ça aussi, que je suis restée. Parce que dans notre société, c'est le seul endroit où on va entendre parler de Dieu. Hein? Où est-ce qu'on peut aller, où on va entendre un message saint, en tout cas, à propos de Dieu? Puis, je me réconforte avec le passage aussi tellement connu dans 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est pas pour ici, c'est pour le ciel. Et depuis plusieurs années, je suis réconfortée par ce que Jésus lui-même a dit. Et aussi un verset très connu dans Jean 16. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Donc, depuis des années, le Seigneur me travaille pour dire « Jamais ma parole t'a dit que tu aurais le bonheur parfait. » Je n'ai jamais dit ça. C'est moi qui avais déformé, et ma déception était d'autant plus grande que j'avais déformé ce que disait la parole. Je voudrais vous laisser avec une parole qui m'a touchée aussi dans le psaume 20, un très beau psaume du début à la fin, mais je vais juste vous partager deux versets. Que l'Éternel te réponde au jour, je vais dire, c'est de la détresse, mais je vais dire de ta détresse. Que le nom de Jacob te protège. Que du lieu saint il t'envoie du secours, que de Zion il te soutienne. Et un peu plus loin, les uns c'est à leur char, les autres c'est à leurs chevaux, mais nous c'est au nom de l'Éternel notre Dieu que nous faisons appel. Eux, ils plient. Et il tombe. Mais nous, nous sommes debout et nous tenons ferme. Mais pas par nos propres forces. Merci beaucoup.